Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartreusine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct à 11h.
Dans Chartreuse Info.
Chartreusins, chartreusines, bonjour, nous sommes le jeudi 6 juin et comme d'habitude on vous a préparé avec Philippine un Chartreuse Info tout à fait dans les règles, sauf que nous aurons une invitée, c'est Katia Julliard, metteur en scène de la compagnie des Chats-Garous qui existe depuis 2011. Sinon il y aura la météo, l'horoscope, le cinéma, quelques infos locales, tout comme d'habitude. Et on va commencer par la citation du jour. Alors c'est une citation qui est un petit peu bisounours, vous allez me dire, sauf que quand même elle est d'un grand scientifique, puisqu'il s'agit d'Einstein, qui a dit « Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. » Aujourd'hui, c'est la Saint-Norbert et le dicton quotidien s'en inspire. Alors, on se demandait avec Philippine si Saint-Norbert avait des problèmes de poids, parce que le dicton nous dit « Les bains que prend Saint-Norbert inondent toute la terre. »
Elle est sympa comme petit dicton. Alors, Norbert, c'est un prénom qui vient du germain Nord et Bert, et ça signifie Nord et brillant. Saint-Norbert de Xantène, c'était donc, il faisait partie d'une famille de nobles au XIe et au XIIe siècle. Il s'est converti à 35 ans et il décide de mener une vie sans plaisir pour se vouer à Dieu et consacrer sa vie aux plus démunis, puisqu'il est après nommé évêque de Saxe. Bon, je crois que tu avais une histoire un petit peu plus intéressante sur Saint-Norbert.
Oui, alors Saint-Norbert, figurez-vous qu'il était très beau, il était blond, il avait des boucles d'or, il était absolument magnifique et il a connu le grand amour, mais le grand avec un grand G. Il avait une relation cachée avec une femme qui n'était pas, comment dire, qui était beaucoup plus pauvre que lui, donc c'était un amour secret. Et un jour, elle est tombée enceinte, ça devait arriver, hein, à l'époque, il n'y avait pas de contraception, et elle a accouché, elle est morte en accouchant, le bébé est mort aussi, et donc il a décidé de faire une croix sur les plaisirs de ce monde, il n'avait plus du tout le cœur à ça, et il est devenu saint. Donc maintenant, après ce moment d'émotion, nous allons regarder vers les siècles passés pour savoir quels sont les 6 juins qui ont marqué l'histoire.
Alors, le 6 juin 1930, des épiciers américains mettent en vente pour la toute première fois des aliments surgelés.
Ce qui sauve la vie des femmes au foyer, parfois, voilà. Je le souligne. Et le 6 juin 1973, Brigitte Bardot annonce qu'elle quitte le cinéma. Alors, il faut savoir qu'elle n'a jamais aimé le milieu du cinéma. Elle dit que ce n'est que superficialité et frivolité. Du coup, elle est du même avis qu'Anémone, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et elle racontait volontiers qu'il fallait que son impresario lui botte le cul. Alors, c'est pas de moi, c'est d'elle. Hein. Elle a un franc-parler, tout le monde le sait. Pour qu'elle aille aux premières de films et dans les cocktails. Elle en avait horreur. La simple lecture d'un scénario l'angoissait et pendant la vingtaine d'années où elle a enchaîné les films, elle avait le ventre noué et elle développait en plus un herpès au début de chaque tournage. Donc elle a bien fait d'arrêter. C'est les animaux qui sont très contents parce que depuis, elle est à leur côté et au moins, elle n'a pas de soucis relationnels avec eux.
Le 6 juin 1977, c'est Bernard Hinault qui gagne le critérium du Dauphiné libéré.
Et si vous êtes né donc un 6 juin, eh bien bon anniversaire et sachez qu'il y a aussi des personnes célèbres qui ont vu le jour comme vous un 6 juin. On va remonter d'ailleurs très loin dans le temps, puisque le 6 juin 1606, c'était la naissance de Corneille à Paris, un poète dramatique français. On lui doit Le Cid et Horace, par exemple.
En 1875, c'était la naissance de Thomas Mann à Lübeck. C'était un écrivain allemand qui a notamment reçu le prix Nobel de littérature en 1929.
Et le 6 juin 1956, c'était la naissance de Björn Borg, joueur de tennis suédois qui a eu beaucoup de fans en son temps. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais apparemment, il est encore en vie. Et comme il ne chante pas, on a choisi de vous passer une chanson de Björk. Alors laquelle, Philippine? Je ne me rappelle plus. Une suédoise aussi, d'ailleurs. On verra. Surprise.
Merci d'écouter Chartreuse Info.
Et malheureusement, le 6 juin, c'est aussi un jour où des personnes nous ont quittés. Dans les personnes célèbres, en 1948, c'était Louis Lumière qui partait de ce monde. Entre-temps, il a inventé le cinéma avec son frère Auguste.
En 2014, c'est le décès de Léon Nizan, ou Nissan, médecin, résistant et écrivain français, cofondateur du mouvement pour le planning familial.
Oui, parce qu'on croit que le planning familial, c'est une affaire de femmes, mais non, à la base, les fondateurs du mouvement, ça a été des hommes. Il faut quand même le souligner. Le 6 juin 2000, c'était le décès de Frédéric Dard, écrivain, et on lui doit toute la série des 100 Antonio.
Et on enchaîne en musique, on écoute Somebody Else Guys de Jocelyn Brown.
Maintenant, on va recevoir donc Katia Julliard. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Katia Julliard. Bonjour Katia.
Bonjour.
Qui est venue nous parler de la compagnie des Chats-Garous et de plein d'autres choses. Alors déjà Katia, est-ce que vous êtes artiste depuis toujours ?
Artiste depuis toujours. Alors ça, c'est une sacrée question. Je crois qu'on est artiste dans l'âme, dans son cœur, etc. Après, professionnellement, si c'était là la question, non, je ne suis pas artiste depuis toujours. J'ai une vie professionnelle qui a beaucoup changé. Je pense que c'est le cas de pas mal de gens à notre époque, mais qui a toujours été animée par la passion. C'est-à-dire, j'ai d'abord fait des études de psychologie. J'ai une maîtrise de psychologie, mais qui date de Mathusalem. Ensuite, Jésus-Talem, comme dit ma maman. Ensuite, j'ai travaillé dans l'édition auprès d'une éditrice littéraire pendant 2 ans à Paris. Ça a été une expérience formidable.
Vous faisiez quoi là? Vous corrigiez les livres?
Alors, entre autres choses, puisque nous n'étions que deux, donc j'étais son assistante, donc je faisais tout. Les rapports aussi avec le rapport aux traducteurs, aux imprimeurs, aux auteurs. Mais bon, c'est quand même elle qui était la directrice littéraire, donc elle choisissait les textes et elle était vraiment au centre de l'activité de la maison d'édition qu'elle avait reprise de son père. Mais voilà, c'était une très très belle rencontre, elle et moi. Et dès qu'on s'est rencontrés, elle n'avait plus d'assistante. J'étais venue simplement pour un stage et j'ai eu la chance qu'elle me propose un poste auprès d'elle. Et ensuite, nous avons été rachetés, petite maison d'édition rachetée par une plus grosse maison. Et de fait, on s'est retrouvés toutes les deux sans emploi fixe, on va dire, qui nous faisait vivre. Et de fait, j'ai créé une micro-entreprise de fabrication de livres. Puisque je connaissais bien le milieu, je savais qu'il y avait une niche dans la région où j'habitais à cette époque-là, qui était la région centre, où il y a beaucoup d'imprimeurs, mais qui ne s'intéressent pas aux petits tirages de livres, parce que cela monopolise et un ouvrier et une machine pour peu de rapport finalement au niveau financier. Donc voilà, j'ai continué un petit peu ce travail avec des auteurs, mais des auteurs avec un peu moins d'audience, on va dire, des gens qui avaient envie d'écrire leur mémoire, qui écrivaient des poèmes, qui participaient à des concours. Et c'était donc une relation quand même comme ça à l'écrit, très proche de l'auteur, et aussi de lui faire plaisir et lui donner entre les mains le produit finalement de sa création qu'il pouvait soit utiliser autour de lui pour le distribuer à sa famille, etc., soit participer à des concours régionaux ou nationaux. Voilà, donc ça c'était assez passionnant également. Ensuite, j'ai eu une autre vie, parce que j'avais très mal choisi, je suis en train de raconter toute ma vie, hein. J'avais très mal choisi mon nom d'entreprise, ça doit être ça le côté artiste, donc pas du tout, apparemment ça parlait pas de la même façon que j'avais pensé au public, aux clients,
on peut le dire les appelle le nom, comme
ça. Ça. À l'époque, oui, ça s'appelait l'atelier de mise en page.
Oui.
Voilà, et c'était assez ambigu pour que des gens viennent me demander de leur apprendre à faire de la mise en page. Or, ce n'était pas mon propos. Et du coup, comme il y avait quand même pas mal de demandes et que les écrivains ne sont pas des gens riches et qu'il fallait aussi que je gagne ma vie, j'ai répondu à cette demande d'apprendre aux gens à faire de la mise en page, mais sur des logiciels grand public, c'est-à-dire, pour ne pas les citer, enfin, vous voyez de qui je veux dire, hein, voilà, des logiciels grand public, et c'est devenu effectivement l'essentiel de mon activité au niveau lucratif, pour employer des vilains mots, tout en continuant par passion à avoir affaire à ces écrivains amateurs ou un peu plus confirmés. Voilà. Et ensuite, je sais pas comment s'est passée la transition. Vous m'en posez des questions.
Non, mais jusqu'à présent, ça paraît logique. Hein. Psychologie, écriture, oui. Et ensuite, suspense.
Et ensuite, suspense, roulement de tambour. Ça, c'est le temps que je reprenne mes esprits. Ça doit être la chaleur.
Que s'est-il passé tellement de vies différentes, on se rappelle plus.
Ouais. Oui, non, mais ça c'est difficile. Hein. Non. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour des raisons de vie privée, de vie personnelle, d'amour, en fait. Bah oui, voilà. Je suis tombée amoureuse.
La passion a frappé.
J'ai trouvé mon amoureux.
Vous l'avez trouvé où, d'ailleurs?
Je l'ai trouvé à Montpellier, à l'époque. Mais je faisais vraiment le tour de France avec la formation. J'étais donc formatrice en informatique.
Mais vous l'avez croisé dans la rue? Comment ça s'est passé?
Oh là là! Faut vraiment que je raconte tout et ça va passer à l'antenne.
Une anecdote. Et donc, comment on arrive à la compagnie des Chats-Garous?
Alors en fait, donc arrivée à Grenoble où nous ne connaissions personne, je me suis dit donc je vais recommencer par le court métrage parce que le court métrage nécessite finalement de réunir des équipes très rapidement, assez rapidement. Le travail en amont et d'écriture est long, etc. Mais au niveau de l'équipe de tournage, c'est quelque chose qui va très vite. Ce sont des tournages qui vont de un jour à nous c'était long, c'était rester déjà une semaine, ce qui est très très impliquant pour dans un milieu où il y a pas de finances, quoi, il y a très peu d'argent. Donc il faut que les gens soient bénévoles, disponibles, etc. Beaucoup de conditions à réunir pour que le film puisse prendre corps. Donc j'ai quand même commencé par ça parce que ne connaissant personne, je me suis inscrite sur un site internet qui se trouve à Lyon, qui réunit des passionnés de cinéma, aussi bien du côté technique que du côté jeu. Et voilà, donc là j'ai rencontré un réalisateur qui m'a fait confiance, bon sur un petit rôle qui était muet, qui était un rôle important dans l'histoire, mais pas un rôle important au niveau de l'importance du rôle au niveau du comment dire, de premier personnage ou pas. Et voilà, donc ça m'a mis un peu le pied à l'étrier, j'ai rencontré des gens et puis petit à petit j'en suis revenue au théâtre, la première fois en remplaçant une comédienne défaillante sur une distribution dans une troupe amateur, et puis donc je l'ai fait un peu au pied levé, on a fait un travail très rapide mais sur un très beau texte, enfin pour ma part il était un peu rapide puisque j'étais pas rentrée dans la distribution dès le départ, donc il y avait des mois de travail en moins. J'ai fait pas mal de comment dire, j'étais comédienne dans pas mal de pièces pour cette troupe, et puis un jour donc le président m'a laissé la place, il m'a dit si t'as envie de faire de la mise en scène ne te gêne pas, donc formidable là-dessus puisqu'il m'a mis un peu l'idée en tête, et je me suis dit pourquoi pas, donc je me suis mis à lire du théâtre, ce que je n'avais jamais trouvé facile. Je suis une grande lectrice de tout temps, depuis mon enfance, mais lire, le théâtre, c'est difficile à lire, parce qu'il y a tellement de non-dits, c'est tellement fait normalement pour être porté ailleurs, qu'il y a une part d'imaginaire qui est immense, et c'est difficile de rentrer dans un texte théâtral. Je m'y suis mis, j'ai découvert une perle, un texte qui m'a fait pleurer et qui me ferait pleurer encore si je tombe sur ne serait-ce que quelques lignes, qui était donc une comédie dramatique d'un auteur pas connu du tout, mais avec cette pièce j'ai eu la chance de que nous obtenions le prix du public dans un festival, parce que il y avait à la base, et c'est la base du théâtre, hein, il y avait un texte merveilleux d'une...
C'est lequel?
Alors le texte s'appelle L'hôtel du fleuve sous le pont. Il y a pont comme à Saint-Laurent-du-Pont, oui. Où il n'y a pas d'hôtel, je crois, enfin pas d'hôtel où on peut dormir. Mais donc l'hôtel du fleuve sous le pont, c'est une sorte de boudu sauvé des eaux, mais inversé, d'une part parce que les personnages sont des femmes, et également parce que ce sont des femmes SDF qui recueillent une bourgeoise.
Ah.
Voilà, donc ce sont une femme assez âgée, plutôt dans les 70-75 ans, et une femme plus jeune qui était une routarde, qui s'est greffée finalement sous le même pont depuis quelques années que cette femme âgée. Elles cohabitent toutes les deux, bon an, mal an, des rapports un peu maternels, parfois conflictuels, parfois parce qu'elles n'ont pas le même âge, elles n'ont pas le même vécu, mais en tout cas, elles s'épaulent. Et certainement, elles s'aiment, même si leur vie est très difficile. Et arrive là, en pleine nuit, une jeune femme qui est venue se suicider, que se jeter dans le fleuve.
Donc, ça me dit quelque chose, cette
histoire. Ça vous dit quelque chose? Voilà, donc, c'est un texte merveilleux. Donc elle est là, elle se jette à l'eau, et la plus jeune va la sauver, va la sortir de l'eau, contre l'avis de la plus âgée qui dit ne t'en mêle pas, on va avoir les flics sur le dos, etc. etc. La langue est à la fois parfois très, très crue, très de la rue, hein, puisqu'on a affaire à des personnes qui vivent dans la rue, elles ont beau être femmes, elles sont dans l'instant, elles sont dans la survie. Cette jeune femme qui est dans un cadre de vie privilégié et qui ne connaît rien à la rue, qui est complètement inadaptée, c'est elle qui n'est pas adaptée, et la confrontation de ces deux mondes crée une rencontre, une très belle rencontre de trois femmes, de trois univers différents. Voilà, ça se termine un peu dramatiquement, dans le terme comédie dramatique. On rit beaucoup tout du long parce que justement il y a une gouaille, il y a un verbe, etc. Et puis, bon, bah, il y a aussi ce qu'est la rue avec ses dangers, voilà.
Ah oui, ça m'étonne un peu parce que par rapport au titre, enfin au nom de votre compagnie, Compagnie des Chats-Garous, c'est surtout des spectacles pour les enfants, j'avais cru comprendre.
Alors, pas du tout. C'est là où on voit que je ne suis pas douée pour choisir les noms. Cela, l'histoire se perpétue. Non, pas du tout. En fait, c'est parce que j'ai une passion pour les chats. Mmh. J'ai toujours adoré les chats. Et un de mes matous qui n'est plus de ce monde malheureusement à présent, qui s'appelait Patapon, j'avais une photo de Patapon complètement fou comme peuvent l'être les chats, avec ce côté jeu. En fait, les chats, c'est pour le jeu. Pour moi, le chat est le joueur ultime, le comédien ultime. Il se donne en spectacle, tout est centré sur lui. Oui. C'est vrai. Et Garou, parce que donc sur cette photo, il était tellement excité, donc très noir, le poil long. Et il avait ses deux petites dents. Il avait la gueule ouverte comme un fauve et deux petites dents qui sortaient genre vampire. D'ailleurs, il a toujours eu les dents comme ça, les canines qui sortaient façon vampire. Et donc, du coup, quand j'ai baptisé ma troupe, elle est devenue, bon, ça a été la compagnie des Chats-Garous en hommage à mon Patapon, le plus grand comédien au monde.
Bon.
Et donc, ce ne sont pas des spectacles pour enfants.
D'accord. Ce qui m'a plu, c'est que, oui, j'avais cru comprendre que c'était une histoire de fée qui allume la radio le matin quand elle se lève pour écouter son émission préférée.
Alors ça, c'est une pièce de théâtre, effectivement, qui est née chez les Chats-Garous, de l'écriture d'une de mes comédiennes, qui est également auteure, et qui, un jour, je lui ai demandé... Donc, tu as complètement raison, Catherine. Tout d'un coup, je te vois. Je peux y aller ? Bon. Donc, j'avais envie, comme je savais qu'elle écrivait, que j'avais déjà lu des choses qui me plaisaient d'elle, qui n'étaient pas théâtrales, mais qui me plaisaient, je lui ai dit, tu n'écrirais pas la jeunesse de la troupe. Enfin, tu n'inventerais pas la jeunesse de la troupe des Chats-Garous. Et en fait, elle m'a dit, je vais y réfléchir, etc. Elle est un petit peu modeste, un petit peu... Voilà. Et puis un jour, elle m'a proposé ce texte qui s'appelle donc « La véritable histoire des Chats-Garous », qui est la rencontre entre une fée, pas très fée, plutôt le genre sorcière, voyez-vous, quoi, qui n'aime pas du tout les chats. Pourquoi elle n'aime pas les chats ? Parce que tout le monde adore les chats. Donc si on adore les chats, on aime moins les fées. D'ailleurs, ça se voit dans les ventes. Il y en a plus que pour les chats sur Internet. Il y en a plus que pour les chats, etc. Les fées, on n'en parle plus, etc. Donc du coup, elle décide de se venger. Elle leur jette un sort pour les rendre laids, pour qu'on ne les aime plus. Voilà. Donc ça, c'est le seul spectacle jeune public qu'a fait...
Ça reprend un peu l'histoire de Blanche-Neige avec l'histoire de la beauté. Oui. Moi, je dirais que le chat ronronne, la fée ne ronronne pas. Le chat, moi, c'est le ronronnement.
Bien
sûr. Il n'y a que le chat qui ronronne.
Bien sûr, si cette fée avait ronronné, elle aurait eu un meilleur sort.
Et alors, j'ai cru voir, je ne sais pas si c'est une fausse info, que vous inspirez de textes d'auteurs contemporains vivants.
Alors, je ne m'inspire pas. Hein. Je veux dire, je respecte. Je lis, comme je disais tout à l'heure, je lis pas mal de théâtre. Bien, voilà, ça fait partie du travail de metteur en scène. Donc, je lis des textes théâtraux et je m'intéresse effectivement particulièrement à la littérature contemporaine, vivant, parce que je trouve que c'est magnifique de contribuer au fait qu'un artiste puisse vivre de son œuvre. On connaît mille exemples, quel que soit l'art, de personnes qui sont mortes méconnues et pauvres, voire dans l'extrême pauvreté. Et je pense que les écrivains, dont les auteurs de théâtre, ont le droit de recevoir donc des droits de leur vivant.
Après, pour les héritiers, c'est peut-être mieux que ce soit après le décès, comme ça l'argent n'a pas été dilapidé. C'est pas mal.
Bon, là, si on parle des héritiers, c'est encore autre chose.
Donc, cette fée, elle va sur la fréquence radio enchantée. Je pense qu'elle ne connaît pas Radio Couleur Chartreuse.
Non, elle ne connaît pas. Elle habite dans la forêt. Elle habite dans la forêt. Elle capte mal.
Et du coup, c'est votre compagnie, quel est le rapport avec les fêtes de la Chartreuse ? Parce qu'apparemment, vous avez organisé un jeu.
Alors voilà, tout à fait. Alors, il y en a pas un tout à fait direct. En fait, ce qui se passe, c'est que je travaille pour avec plusieurs compagnies professionnelles ou amateurs. La compagnie des Chats-Garous est à l'origine une troupe amateur que j'ai créée en 2011 avec mon amoureux dont je parlais tout à l'heure, qui lui est musicien notamment. En fait, nous nous orientons peu à peu vers le jeu. finalement, vers le jeu dans un sens étendu, c'est-à-dire, et dans la mesure où je suis moins disponible au niveau bénévolat, puisque je suis présidente de la compagnie des Chats-Garous, mais en tant que bénévole, donc je fais mes mises en scène bénévolement, etc., mais je suis moins disponible parce que je travaille aussi à présent professionnellement en tant que metteur en scène. De fait, donc, je ne peux plus monter des pièces théâtrales qui s'étalent sur une année scolaire, on va dire. Hein. Souvent, les troupes fonctionnent de septembre à juin ou de décembre à décembre. Et je n'ai plus cette disponibilité toutes les semaines. Je n'ai plus cette disponibilité toutes les semaines pour être là avec mes comédiens, pour les faire avancer dans la création d'un texte, dans la mise en espace d'un texte. Et de fait, nous avons réfléchi et j'ai cherché ce que j'aimais faire et qui finalement était moins prenant, moins sollicitant au niveau planning. Et en fait, cette chose, c'est le jeu. Le jeu, donc il y a le jeu au théâtre, le jeu sur scène, et puis il y a aussi le jeu qui peut être un jeu de plateau, une murder, un jeu de rôle. Et j'ai de tout temps joué, moins depuis que je suis dans la mise en scène, mais j'ai toujours beaucoup joué dès l'apparition des jeux de rôle en France. J'ai été meneur de jeu en jeu de rôle. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment que la compagnie ajoute finalement à ses activités un volet jeu. Donc nous étions en pleine écriture d'une murder, d'une soirée, qui ne serait pas forcément une soirée parce que c'est une garden party, le cadre. Nous étions en pleine écriture de cette murder, donc avec une de mes comédiennes, Laura Morand, qui jouait justement dans Hôtel du Fleuve sous le pont, un rôle très, très fort, très poignant. Donc nous écrivions cette murder quand le mail de la municipalité est arrivé pour nous proposer de participer aux fêtes de la Chartreuse. J'avoue que au début je l'ai confondu. On reçoit pas mal de, je pense que tout le monde en est là. On reçoit beaucoup de sollicitations, beaucoup de mails, etc. Donc il y avait à l'époque, je pense que là aussi vous le savez, il se passe vraiment beaucoup de choses en Chartreuse, et tant mieux. Mais j'avais reçu aussi des mails du Grand-Duc, des fêtes de la Chartreuse, mais du cœur de Chartreuse. Je pense que ça s'appelle Trésor de Chartreuse. Ils ont trouvé un nom. Donc bref, il se passe tellement de choses chez nous. Et tant mieux que momentanément, donc j'avais confondu les événements et c'était pour moi à des dates où je n'étais pas disponible et donc du coup je n'ai pas donné suite. Et puis je reçois un compte rendu de la première réunion à laquelle je n'avais pas assisté justement puisque je ne pensais pas être disponible pour les fêtes elles-mêmes. Et là, je découvre effectivement de quoi il s'agissait, des vraies dates, etc. Ma confusion dans les événements. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas proposer quelque chose? Et ce quelque chose, ça pourrait être un jeu. Donc, nous avons réfléchi avec Laura et nous avons créé un jeu de toutes pièces pour l'occasion, qui est donc un petit jeu de plateau, des parties courtes avec peu de joueurs, parce que dans le temps imparti des deux mois que nous avions devant nous pour le créer, c'était voilà ce qu'on pouvait proposer de solide qui tiendrait la route. On pouvait pas s'embarquer dans une énorme aventure comme une murder, pas à brûle pour point.
Et donc concrètement, ce vendredi là, si on veut faire votre connaissance et jouer à votre jeu,
on vient à la maison des associations. Voilà, maison des associations. Comme toutes les animations, celle-ci aura lieu de 18h à 20h. Nous avons prévu 3 sessions de jeu. C'est assez minuté parce que nous venons du futur, n'est-ce pas, de 1970. et histoire que nous puissions repartir à temps dans notre époque, il faut vraiment respecter les horaires. Donc il y a une session à 18h, une session à 18h40 et une à 19h20. Donc 35 minutes de jeu, puis un petit peu d'installation et de revoir. L'histoire est donc originale, créée de toutes pièces. Au début, nous étions partis sur, il s'agit des fêtes de la Chartreuse, donc plutôt sur la liqueur. Et puis, nous sommes rendus compte que notre idée existait déjà avec la recette qui avait disparu
à
la distribution. Voilà. Donc on s'est dit, non, on ne va pas faire une redite. C'est pas très intéressant, ni pour nous, ni pour les gens qui l'auraient déjà vécu.
Oui, parce que je ne vais pas faire un jeu de mots, mais il ne faut pas trop saouler les gens non plus.
Non,
il
ne faut pas saouler les... Voilà, faut pas saouler les gens. Elle est vraiment très forte. Ça pourrait faire mal à la tête. Donc le nôtre, il n'est pas du tout prise de tête. C'est très, très léger. On a essayé de le matiner... de Burger Quiz, de Koh-Lanta, voilà, c'est un jeu, on pourrait dire, type jeu de loi, c'est-à-dire il y a un parcours à faire. Sur ce parcours, il y a des questions, donc il faut répondre aux questions pour arriver au but et gagner. Mais le contexte, en fait, est plus intéressant que ça. Le contexte est que la marmotte a disparu. D'où l'opération marmotte.
Mais c'est peut-être l'hiver, peut-être qu'elle hiberne.
Non. Bah, regardez, vous croyez qu'on peut hiberner. Non, voilà, non. Là, la marmotte, si tout va bien, elle serait en train de s'empiffrer, en prévision justement de l'hiver. Oui. Mais en 1970, c'est absolument pas le cas, parce que la marmotte, elle a disparu. Et vous savez que la marmotte, elle a disparu déjà de pas mal d'habitats. Elle avait disparu au début dans les années 40, au début du siècle, en tout cas, des Pyrénées. On a réintroduit la marmotte des Alpes. Alors pourquoi la marmotte, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un animal adorable qu'on a vraiment envie de sauver. Franchement, vous avez envie de sauver la marmotte ?
J'ai envie de sauver la marmotte.
Alors, venez jouer à Opération Marmotte.
Et c'est réservé à quel âge ?
Alors, à partir de 7 ans, mais seulement des enfants accompagnés. Sinon, c'est tout public. L'idée, c'était plutôt de réunir les familles.
Ah oui, à 90 ans, c'est bon.
À 90 ans, à 100 ans, etc., vous pouvez venir, on vous attend.
C'est gratuit ?
C'est gratuit. C'est convivial, c'est animé, nous sommes des comédiennes, donc c'est un jeu animé. Vous ne voulez pas faire un jeu tout court, bien sûr, on est une compagnie de théâtre avant tout, donc on allie effectivement le jeu, nous sommes, n'est-ce pas, venus du futur, pour rien, pour en apprendre plus sur la marmotte, car nous avons trouvé une crotte,
ah bon,
ou une crotte avec de l'ADN, c'est formidable. On va pouvoir recréer la marmotte. D'ailleurs, on a recréé la marmotte. Le problème, c'est que ça n'existe tellement plus, il y a tellement plus d'informations sur cet animal qu'on ne sait pas comment faire pour la préserver. Quel habitat, quelle nourriture, on ne sait rien, on est complètement diminué. Hop ! Un petit retour en Chartreuse à l'époque où les petites marmottes s'ébattaient dans la montagne pour en apprendre plus sur la marmotte, munie bien sûr du document scientifique que nous avons apporté avec nous, le plateau de jeu. Mais il ne faut pas le dire, parce que nous, on ne sait pas que c'est un plateau de jeu. C'est forcément hyper scientifique.
Ouh là là, merci Katia pour toutes ces infos. Si vous voulez en savoir plus, donc je redis le rendez-vous Maison des Arts ce vendredi, à quelle heure ?
Alors, à 18h, voilà.
Jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h, 3 sessions de jeu sur les documents qu'on va distribuer. Il y a un numéro de téléphone que je ne connais pas par cœur, mais ça serait mieux de s'inscrire, parce qu'effectivement, il y a peu de place. Voilà.
Je suppose à la mairie, à la Maison des Arts.
Oui, tout à fait. Ouais. Sur Facebook, pour ceux qui utilisent cet outil, l'information passe. Voilà. Sur le site de la mairie de Saint-Laurent-du-Pont, il y a toutes les infos.
Bon, eh ben c'est super. Je suis sûre que grâce à vous, les fêtes de la Chartreuse à Saint-Laurent-du-Pont vont avoir beaucoup de succès.
Ça va être très fun, très fun. Et d'ailleurs, M. Didier Thérard-Collet nous a demandé effectivement, nous n'aimerions pas jouer à d'autres reprises, par exemple à la fête du 10 août à Saint-Laurent-du-Pont. Et c'est quelque chose qui nous ferait très plaisir. Donc voilà, tout ça, est en cours. Si elle a lieu, si la fête des Chartreuses rencontre un beau succès, voilà.
Ouais, il s'est dit, j'ai trouvé la perle rare, on va exploiter tout ça.
N'abusons pas.
Bon, merci Katia, à vendredi.
Merci beaucoup, merci Radio Couleur Chartreuse, merci à tous. Merci.
Alors, à Voiron, vendredi 7 juin, soirée Latino, c'est de saison. C'est de 21h à minuit à l'école Garrigue Danse. Ça coûte que 4 euros. Et donc, cette école vous propose une soirée Latino, l'occasion de vous initier à diverses danses, salsa, bucata, kizomba. Les débutants sont les bienvenus. Pour les renseignements, c'est le 06 16 86 60 57.
Ce samedi 8 à Saint-Christophe-sur-Guiers, c'est Jambon au foin. Une ambiance garantie autour du chaudron de Stéphane Bandet qui va vous mijoter un petit jambon de Derrière les Fagots accompagné de légumes et le tout assorti d'une délicieuse sauce longue. Buvette sur place et la réservation est conseillée. C'est de 10h à 14h à Saint-Christophe-sur-Guiers.
Et n'oubliez pas la soirée Tango du 8 juin à Saint-Pierre-de-Chartreuse à la salle des associations à partir de 17h30. Alors au programme Initiation au Tango, le prix est libre, il suffit de donner 5 euros et après on fait comme on veut. Il y a un défilé dansé qui s'appelle Milonga, hein, tout ça nous vient d'Amérique du Sud. Il y aura aussi une collecte de fonds pour le projet d'atelier mobile. Des empanadas à déguster sur place ou à emporter. Pour les renseignements, c'est Chloé au 06 44 92 83 39.
De la cuisine aux plantes sauvages à Saint-Joseph-de-Rivière, ce samedi 8 juin, comme quoi il y a des choses à faire ce samedi, c'est de 9h30 à 14h30. Au programme, des rencontres avec les plantes comestibles du moment, des reconnaissances et une cueillette, et bien sûr un atelier pratique de cuisine et de dégustation du repas que vous aurez préparé. C'est au tarif de 40 euros et ça comprend la formation et un support écrit. Et on enchaîne en musique avec Illusion de Imagination.
retrouver vos infos locales, sorties ciné, horoscopes, intervenants locaux et bien sûr de la musique de 11h à midi et de 18h à 19h.
Du côté cinéma au Cartus de Saint-Laurent-du-Pont, retrouvez ce soir à 20h30 Les plus belles années d'une vie. C'est une comédie française de Claude Lelouch et l'histoire est celle de Jean-Louis Trintignant et de Anouk Aimé, donc les deux acteurs qui se sont connus il y a bien longtemps, un homme et une femme dont l'histoire d'amour fulgurante et inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l'amour. Aujourd'hui, l'ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Claude Lelouch revient donc avec ce nouveau film, puisqu'il avait récolté le Grand Prix du Festival de Cannes en 66 pour Un homme et une femme, et il réunit à nouveau Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimé. On écoute la bande-annonce.
Bonjour.
Vous êtes nouvelle ?
Vous rêvez à quoi ?
À des jolies femmes. J'ai beaucoup aimé les femmes. Et surtout l'une d'entre elles à qui vous ressemblez. C'est joli ce geste que vous venez de faire.
Les plus belles années d'une vie.
Vous voulez vous évader avec moi ?
Celle que l'on n'a pas vue.
Allez, embrassez-moi.
C'est ça la folie.
Il y a combien de temps que vous n'avez pas été folle ?
Madame, bonjour. C'est interdit de rouler ici sur les planches en voiture.
Et depuis quand ?
Depuis 50 ans. Depuis qu'un crétin a roulé ici avec sa Ford Mustang.
C'était moi.
Mon amour.
Il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'ont regardé comme ça.
De te dire mon amour.
Je me souviens d'elle comme si c'était hier.
Sans chagrin.
T'étais tellement belle.
Moi, ma réponse.
On est toujours beau quand on est amoureux.
C'est toi.
C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut être beau quand on est amoureux ?
Toujours. C'est toi.
Donc du côté de la météo, vous avez pu le constater, aujourd'hui il fait beaucoup plus frais, on respire enfin, on est moins envahi par les bêtes, les abeilles, les frelons, etc. Parce qu'à Radio Couleur Chartreuse, franchement on vit un grand danger, il y en avait hier dans le bureau. Alors aujourd'hui les températures ne vont pas dépasser 20 degrés, vous pouvez enfiler vos pulls pour les quitter demain, parce que demain vendredi ce sera de nouveau chaud et lourd, température entre 12 et 30. Samedi, temps sec et agréable, entre 12 et 25 avec à peine quelques petits nuages. Dimanche, ça y est, la chaleur revient, température entre 12 et 33. Et lundi, ce devrait revenir instable et orageux, température entre 17 et 25 degrés. Alors, du côté de l'horoscope, on va commencer, comme d'habitude, par le bélier. Alors, bélier, c'est votre bon sens et rien d'autre qui vous indiquera la route à ne surtout pas suivre, donc la sécurité.
Taureau, ne comptez pas trop sur les bonnes retombées que laissait présager la conjoncture. Il faudra donc recommencer.
Gémeaux, dans le cadre du travail, si vous comptez sur la publicité, eh bien, oubliez, il suffit en fait pour réussir de mieux travailler.
Les cancers, n'exagérez pas l'importance d'un fait dont vous ne portez peut-être pas la responsabilité. Tout va s'arranger.
Lion, il est certain que la routine et la platitude ne sont pas votre tasse de thé. Mais alors, comment changer tout ça ? Eh bien, il suffit d'y réfléchir et de saisir les occasions que la vie nous offre.
Vierge, en apparaissant comme un chien de jeu de quilles, vous ne vous attendiez tout de même pas à des bravos.
Balance, alors vous aimez bien sortir comme un diable de votre boîte avec l'intention de surprendre et surtout de dérouter. Par contre, faites attention si vous avez des personnes au cœur fragile autour de vous.
Scorpion, consolidez votre actuelle position professionnelle qui fait l'objet donc de certaines tractations. Gardez le secret.
Sagittaire, il ne vous est pas conseillé d'improviser aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez vous faire aider. Il y a des personnes autour de vous qui ne demandent que ça.
Capricorne, une situation actuellement délicate, mais vous serez surmonté donc cette nouvelle difficulté professionnelle.
Verseau, ce qui fonctionne idéalement pour les uns peut complètement échouer pour d'autres, et ce à un moment très différent. Donc ne vous inspirez pas de l'expérience des autres.
Et enfin les poissons, difficile d'aller de l'avant quand on vous conseille vivement de rebrousser chemin. Mais attention, c'est votre décision. Et on fait une pause musicale, on écoute Got to be Real de Cheryl Lynn.
C'est fini pour ce Chartreuse Info du jeudi 6 juin. J'espère que je vous retrouve demain. Donc je souhaite à tous les auditeurs et les auditrices de Radio Couleur Chartreuse une très très bonne journée. Profitez de la fraîcheur. À demain. Ciao, bye bye.
Bye bye.